Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama en direct des studios de Washington pour refaire l'actualité sportive sur le continent et dans le monde. Comme chaque soir, vous pouvez nous laisser vos messages sur Facebook, la page VOA Afrique. On attend également vos appels en direct, le numéro de téléphone, le 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33. On va d'abord saluer nos intervenants. Ce soir, il est avec nous depuis Casablanca, au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Jules Valentin Ngoué à Libreville, au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Saluons également Élisée Mpatine à Boïkon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Et on va saluer Amdine Sy qui est avec nous depuis Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Voilà, on espère avoir dans quelques instants. Il est avec nous depuis Kinshasa. Thierry Kamboudi, Top Congo FM, notre station partenaire. Bonsoir Thierry. Voilà, on va essayer de se connecter avec Skype. Thierry Kamboudi, voilà, c'est parti pour cette émission. La veillée d'armes pour les demi-finales de la Ligue africaine des champions. Les Égyptiens d'Al Ahly, détenteurs du record de victoires dans cette compétition avec 8 titres, qui tenteront de creuser l'écart demain au Caire. Demi-finale aller de l'AC1 face aux Algériens de l'Entente Sétif. Ils étaient tombeurs des tenants du titre marocain, Amine Birouk, le Wydad de Casablanca, Sétif qui avait fait mal aux tenants du titre.
C'est Tiff qui avait eu la chance de recevoir au match aller et de pouvoir jouer sur un terrain en gazon artificiel et de surprendre le tenant du titre. Cette fois-ci, la configuration est différente. Il faudra résister aux assauts des Égyptiens d'El Ahly, revanchard, puisqu'ils avaient perdu l'année dernière de très peu la finale. Une équipe d'El Ahly qui a su se ressourcer après avoir débuté la phase de groupe d'une façon assez laborieuse. D'ailleurs, une défaite dès la deuxième journée en Ouganda avait abouti au limogeage de l'entraîneur Hossein El Bedri, remplacé par une vieille connaissance du football hexagonal, Patrice Carteron. Patrice Carteron qui a su trouver les mots justes pour pouvoir remotiver ses troupes. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui carbure. Preuve en est une victoire en déplacement lors de la phase de groupe contre l'équipe de l'Espérance de Tunis, qui a permis à l'Ali de finir première de son groupe. Et surtout, cette qualification menée tambour battant face au Roya Conakry, un match nul en Guinée et puis une victoire assez nette en Égypte 3-0. Demain, il y aura très peu de supporters, puisqu'une décision du ministère de l'Intérieur égyptien empêchera les joueurs de l'Ali d'avoir le support, l'aide, le soutien du 12e homme. Ils seront en nombre bien plus réduit que d'habitude. Mais c'est une habitude en Égypte depuis l'année 2011 que ces décisions des sécuritaires. Aujourd'hui, c'est une équipe motivée, expérimentée, qui a beaucoup de joueurs capables de faire la différence sur toutes les lignes. L'arrière-gauche tunisien Ali Maaloul qui est très offensif jusqu'à l'avant-centre marocain Walid Azzaro qui avait été très critiqué pour ses débuts avec l'Ali et qui a su s'adapter à son nouvel environnement. Voilà des atouts, des joueurs expérimentés, internationaux égyptiens, un vécu dans les compétitions africaines et puis cet ADN que beaucoup d'équipes enviraient à l'Ali qui a remporté tout de même 8 fois le titre. De l'autre côté, c'est une équipe algérienne qui n'a rien à perdre sous la houlette du marocain Rachid Taoussi avec son maître à jouer Abdelmoumen Djabou qui a disputé le mondial 2014 avec les Fennec et surtout des joueurs qui reviennent du Diable Vauvert. On se rappelle que lors de la phase de qualification, ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs avant de pouvoir se relancer et de créer cette sensation en quart de finale face à l'équipe du Wydad de Casablanca.
Alors on reste avec vous Amine, très court, mais qu'est-ce que vous pensez de la nomination de René Girard sur le banc du WAC, justement le technicien français qui avait notamment remporté le titre de champion de France avec Montpellier, c'était en 2012.
Le Wydad de Casablanca qui était à la recherche d'un entraîneur depuis de très nombreuses semaines. La mayonnaise n'avait pas pris avec l'entraîneur provisoire qui était manager général du club. Preuve en est les résultats qui ont commencé à régresser en piqué à partir de la troisième ou quatrième journée de la phase de groupe. Aujourd'hui, René Girard a un véritable chantier pour pouvoir remotiver des troupes qui ont le moral dans les chaussettes et puis restructurer une défense quasiment, à la peine lors des dernier match, donc première expérience africaine, il va falloir qu'il s'adapte à son nouvel environnement et qu'il puisse trouver les mots justes pour pouvoir redonner le goût de vaincre à cette équipe du Wydad de Casablanca.
Merci beaucoup. L'autre affiche du dernier carré mettra aux prises les Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Ça a un invité surprise en pleine confiance, les Angolais du Primeiro de Agosto. Pour en parler, on va retrouver Thierry Kamboudi, Top Congo FM à Kinshasa. Thierry, vous nous entendez?
Je vous entends, Nicolas.
Alors Thierry, on le disait, hein, le Primeiro de Agosto hein, qui a fait mal à Mazembe, quand même, hein, l'espérance favorite hein, sur cette rencontre. Hein.
Absolument, hein, au vu de l'expérience et du palmarès, les espérantistes sont, on va dire, largement favoris hein, de cette demi-finale. Mais attention, attention, c'était également le pronostic des spécialistes avant les quarts de finale contre le plus puissant Mazembe Angeber. Cette équipe du Primeiro de Agosto a fait une très très belle saison au niveau du championnat local et elle a prouvé qu'elle pouvait se montrer solide défensivement et qu'elle pouvait surmettre beaucoup d'éclats également créer des surprises sur balle arrêtée comme c'était le cas lors du quart de finale retour contre le tout puissant Mazembe Angeber. Elle a démontré également certaines qualités notamment au milieu de terrain. Donc attention aux espérantistes, car cette équipe du Primeiro peut toujours surprendre, même si sur papier, comme vous l'avez dit et je le répète, l'espérance sportive de Tunis est favorite.
Merci beaucoup. On va rappeler que le Primeiro de Agosto a été créé en 1977. C'est évidemment le club de Luanda. On va suivre ça, bien évidemment. On va marquer une première pause sur VOA Afrique dans Sporama. On va parler dans quelques instants de la Ligue des Champions en Europe. Allez, on parle de cette Ligue des Champions en Europe et bien évidemment les yeux seront rivés sur Manchester United. On va en parler avec Élisée Ongpati, Naboïko au Bénin. Élisée, on connaît les péripéties de Manchester United. Ça va mal hein, dans l'équipe de José Mourinho. Le plus mauvais départ en championnat depuis 89. La bisbille avec le champion du monde Paul Pogba. On murmure une arrivée de Zinedine Zidane. Hein. On en parle souvent de l'ancien entraîneur du Real dès qu'un club va mal. Mais en tout cas, hein, the special one, Mourinho qui et en tout cas dans deux saldras, il ne faudrait pas perdre hein, ce match important pour justement contre Valence. Hein, ça précipiterait peut-être le club un peu plus dans la crise. Le dernier élément, ce soir, José Mourinho dit qu'il n'est pas inquiet de perdre son poste. C'est souvent ce que disent les entraîneurs qui vont être limogés. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation à Manchester United?
Oui, Nicolas, il faut dire que José Mourinho est dans une situation très, très, très délicate. Hein, il faut le souligner puisque il n'a plus connu un départ pareil dans un championnat il y a longtemps. Manchester a des difficultés à enchaîner. 10 points seulement hein, après plusieurs journées dans ce championnat de première ligue. Il faut dire que la presse anglaise est en train même de parler hein, du contact pris entre Zinedine Zidane et les frères Blazers, bien sûr, les propriétaires du club macunien. Cela veut dire que, quelque part, Mourinho doit être inquiet. C'est vrai qu'on le connaît, bien sûr, pour sa manière hein, d'animer les conférences de presse aujourd'hui. C'est le special one. Et il a même parlé de only one. Donc, c'est dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup abuser la galerie. C'est très bien qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation difficile, puisque déjà, dès l'entame de ce championnat, il a déjà fait beaucoup de coups de gueule hein, concernant les recrutements, puisqu'il a dit que Manchester n'a pas pu bien recruter afin de rivaliser avec les grands d'Angleterre et que même en Ligue des Champions, ce serait difficile aujourd'hui. Il est en train d'avoir raison, mais attention, Mourinho est quelqu'un qui connaît bien sûr son métier, mais est-ce que ça va durer, puisque avec ces petits problèmes entre lui et Paul Pogba, est-ce que ça va durer? Les dirigeants vont devoir prendre une décision. Est-ce confirmer Mourinho à la tête ou bien est-ce le laisser partir et afin de trouver une autre solution et afin de permettre à Manchester United de se relancer dans ce championnat, puisqu'on le sait très bien, le championnat anglais, c'est un championnat très difficile, très difficile. Il ne faut pas accuser de retard, sinon à la fin, ça se complique.
Merci beaucoup. On va parler de l'autre club de Manchester, les Citizens, hein, qui sont premiers de la Premier League après, bien évidemment, 6 victoires en 7 matchs. La récente ce week-end contre Brighton. Alors là, on va aller voir Jules Valentin Gouet à Libreville. Jules Valentin, il y a eu un faux départ. Hein, il y a eu un raté à l'allumage pour les Citizens hein, qui ont été battus par Lyon à domicile. L'exploit des Lyonnais, cette fois-ci, les Citizens qui vont aller en Allemagne, à Hoffenheim. A priori, un déplacement difficile. Vous pensez que la bande de Pep Guardiola va redresser la tête, hein, ce qui serait logique. Hein, on va dire que c'était un accident industriel contre Lyon. Hein.
Oui, ce serait logique pour une équipe qui a un tel capital humain Mais il faut dire que l'adversaire du jour, Oppenheim, se porte très bien, aussi bien en championnat que d'ailleurs en Ligue des Champions, où il n'a pas volé sa place parmi les équipes qui sont en train de s'affronter dans les poules. Et au match précédent, il a tenu en échec le Shakhtar Donetsk, qui n'est pas le premier venu non plus. Donc, dans un match où on aura affaire à deux équipes dans le style anglo-saxon et germanique qui sont très physiques et rapides, et tout peut se jouer parce que tout compte fait, Offenheim a en tête de peut-être jouer un sale tour à Manchester City pour se retrouver dans la peau d'un qualifiable possible, ce qui n'était pas le cas au début de la compétition. Donc c'est un déplacement dangereux que Manchester City effectue là en Allemagne.
Merci beaucoup. On va aller du côté de Dakar retrouver Amdinsi. Amdinsi, pour parler finalement de la Juventus Turin qui va affronter les Young Boys de Berne sans Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a été bon hein, face à Naples lors de la victoire 3-1. Il a notamment été l'auteur de deux passes décisives. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Cristiano Ronaldo? On va rappeler ce soir hein, l'information plutôt fait divers. Mais Cristiano Ronaldo qui est rattrapé par une affaire accusée de viol par une américaine, ça date de 2009. On va évidemment en reparler dans les prochains jours, mais au-delà de cette affaire, que pensez-vous du début sportif de Cristiano Ronaldo en Italie?
Je pense que c'est un bon début. Hein. Cristiano Ronaldo est en train de prouver qu'il était un grand joueur parce que réussir d'abord dans le championnat d'Angleterre, venir en Espagne, marcher sur l'eau, parce que ce que Cristiano Ronaldo a fait en Espagne, il fallait le faire, détrôner un certain Lionel Messi, et Cristiano Ronaldo l'a réussi. Il faut dire que son transfert a été un peu une surprise, quoi, parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'il signe à la Juventus, mais lorsqu'il a paraphé son contrat et qu'il est arrivé là-bas, Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il était un grand joueur. C'est vrai que lors des premiers matchs, il n'avait pas réussi à marquer, mais il n'a pas fallu très longtemps pour voir Cristiano Ronaldo ouvrir son contre-but. Depuis lors, il est en train quand même de faire de bons matchs. Certes, il a été expulsé, je dis injustement, lors du premier match de la Ligue des Champions, mais heureusement, les dirigeants de l'UEFA ont compris parce qu'il va purger qu'un match de suspension, c'est contre les Young Boys de Berne, et il va revenir très fort pour la suite de cette compétition. Parce que quand on regarde la Ligue des Champions, quand on suit la Ligue des Champions, c'est pour voir des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Donc chapeau à ce joueur, et il est en train de démontrer dans tous les championnats qu'il est passé, qu'il reste le grand, qu'il reste le roi.
Merci beaucoup. On va suivre bien évidemment cette nouvelle journée de la Ligue des Champions. Ce sera à partir de demain sur VOA Afrique. Allez, on va ouvrir à présent l'Assemblée Générale de Sporama pour parler bien évidemment de l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors, on n'aura toujours pas de décision sur le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. On a enfin une date, puisque la CAN 2019 aura lieu du 15 juin au 13 juillet. On ne sait toujours pas où. Il y a eu finalement cette conférence de presse hein, avec le président Armat, le président malgache de la CAF qui, une nouvelle fois, botte en touche. Il y aura une mission d'inspection d'ici novembre. On est quand même à 7 mois d'une compétition majeure. Ça paraît quand même difficile ce scénario. En tout cas, si jamais il y a désistement du Cameroun, les prétendants à une organisation finale seront assez limités vu le temps imparti pour organiser cette CAN 2019. On va écouter le président Armat, un petit peu agacé qu'on lui pose toujours la question sur l'organisation de cette CAN au Cameroun.
Pourquoi toujours c'est à la CAF que vous demandez? Nous ne sommes pas responsables de la constitution des sites pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'est le pays qui est responsable. Le Cameroun s'est engagé jusqu'au plus haut sommet de l'État qu'ils seront à temps pour l'organisation de cette compétition. Ce que je peux vous répondre, c'est que la CAF n'a pas encore pris aucune décision contraire à ce qui a été dit, à ce qui a été pris avant que la CAN 2019 seront organisés au Cameroun.
Voilà, c'était le président de la CAF, Armat, hein, qui s'exprimait depuis Sharm el-Sheikh. On va rajouter finalement que d'autres compétitions ont vu l'attribution confirmée, notamment la CAN féminine en 2020, ce sera au Congo, la CAN futsal au Maroc en 2020, la CAN des moins de 20 ans 2021 en Mauritanie, la CAN des moins de 17 ans 2021 au Maroc et, le CHAN 2022, ce sera en Algérie. On va parler à Amine Birouk qui est peut-être bien placé pour recevoir cette CAN, hein. Le Maroc finalement pas officiellement candidat, mais en tout cas la candidature camerounaise à cette organisation plus que jamais en suspens. Ça fait long, hein, quand même, pour prendre une décision, Amine. Fin novembre peut-être, c'est pas sûr. Qu'en pensez-vous?
Et surtout la CAF qui prend des gants pour pouvoir justement ajuster, fignoler cette décision, parce qu'il y a eu plusieurs missions d'inspection, il y a un cabinet indépendant pour pouvoir auditer l'organisation du Cameroun en termes d'infrastructure, en termes de possibilités d'organisation, et puis selon le calendrier de la CAF et selon le communiqué publié après les premières réunions du comité exécutif, une mission bipartite de la CAF et de la FIFA qui auront inspecté sur place ce qui se passe au Cameroun avant qu'il y ait cette décision dans le courant du mois de novembre. Ça laissera un délai de 6 à 7 mois pour pouvoir, je dirais, en cas de retrait de la candidature camerounaise, pour pouvoir donner ou octroyer l'organisation à un pays. Ça laisse 2-3 possibilités au maximum pour la CAF. On est en train de vivre un remake de la situation du CHAN 2018, lorsque le Kenya était pays organisateur et lorsqu'il a été incapable de répondre à ses obligations. Il faut aussi également prendre en compte la situation politique au Cameroun avec les élections présidentielles dans les prochaines semaines et puis attendre que tout cela puisse se décanter. J'ai l'impression que Ahmed, en bon politicien, ne veut surtout pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Cameroun et attend surtout la décision de la commission d'inspection bipartite pour pouvoir pousser le comité exécutif à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre.
Ouais, on rappelle que la présidentielle au Cameroun, ce sera dimanche, hein, 7 octobre. Thierry Kamboundi, avec vous, votre opinion, hein, évidemment, concernant, en tout cas, la non-confirmation pour le moment que la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Écoutez, ça fait partie de ce qu'on a toujours vécu, hein, à la veille, ou dans le cadre de la préparation d'une Coupe d'Afrique. La CAF, d'une part, veut être sûre que tout est en ordre, que les chantiers, on va dire, que tous les stades sont prêts, ont été rendus à l'organisation, les infrastructures, que le cas de charge qui a remis au Cameroun a été respecté. De l'autre côté,
voilà, on a perdu Thierry.
Allô?
Oui, allez-y, on vous a retrouvé.
Je disais donc que le Cameroun, qui est sur plusieurs fronts, notamment le fonds politique, a évoqué les élections tout à l'heure à rassurer. C'était encore le cas la semaine dernière par l'entremise de son ministre des Sports que le Cameroun sera prêt à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Il reste encore quelques mois, la CAF doit être sûre et le Cameroun doit donner toute l'assurance possible à travers l'avancement de tous les travaux et le cahier de charge, le respect du cahier de charge de la Confédération africaine de football, que tout sera prêt. Moi, je suis sûr, je l'ai dit et répété depuis le début de cette affaire, que le Cameroun sera prêt à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations en juin prochain.
Merci beaucoup. On va peut-être évoquer également justement ce qui a été l'autre annonce finalement assez intéressante, hein, lors de cette Assemblée Générale. C'est finalement l'élection du Malawien Walter Nyamilandu qui a été préféré, et c'est une surprise, au tout puissant patron de la Fédération Sud-Africaine, Danny Jordan, pour siéger au comité exécutif de la FIFA. Votre analyse, Élisée Oumpatine, est-ce que l'Afrique du Sud paye son non-soutien au Maroc pour la candidature 2026 à la Coupe du Monde?
Oui, on peut le dire, hein, puisque Jordan était favori à ce poste-là. Et si aujourd'hui, les votes ont montré clairement le Malawi, ça a apporté clairement le Malawi à la tête de cette commission, il faut dire que quelque part,
la publicité a payé cher. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent réellement la révolution. Il y a une révolution au sein du football africain. Hamad est en train de révolutionner réellement ce football qui est terminé, il faut le dire, qui est terminé réellement par plusieurs affaires de corruption. On a même vu le président de la fédération gardien de football, Niataki, a été rattrapé par une histoire, même au niveau de la fédération nigériane. C'est vrai que l'ancien a été encore réélu à la tête de l'institution, mais en temps, dans son pays, on l'a accusé pas mal, mais pourtant aujourd'hui, il a été porté encore à la tête de cette fédération. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine évolution au sein de la Confédération africaine de football. On espère que cela pourra permettre au football africain de commencer par émerger au niveau des compétitions internationales.
Merci beaucoup de nous avoir livré cette analyse. L'autre question, c'est bien évidemment le contrat avec Lagardère. On sait évidemment que pour le moment, ce contrat n'a toujours pas été renégocié. Un contrat $1 milliard qui couvre la période 2017-2028. Oui, mais voilà, ce contrat n'avait pas été conclu pour une CAN à 52 matchs avec 24 équipes, mais pour une CAN de 16 équipes et de 32 matchs. Alors, avec vous, Jules Valentin Gouet, on le disait, ça va évidemment faire plus d'un an et demi maintenant que ce contrat avait été signé, et toujours pas de renégociation officielle, toujours pas d'accord plus favorable pour la CAN, puisque c'était quand même assez cher payé, de Lagardère pour avoir autant de droits télé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce contrat qui a toujours pas été renégocié, alors que pendant sa campagne et au début de sa prise de fonction, Armat, le Malgache, avait dit qu'il fallait le renégocier
Oui, mais bien sûr, mais tout part du fait que l'erreur fondamentale a été de changer la formule de la CAN à juste avant la prochaine édition. Normalement, dans toutes les compétitions du monde, on fait une telle révolution pour la compétition qui viendra en deuxième position. Donc, à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des dossiers juridiquement mal ficelés. On va se retrouver avec des pays mal préparés. Et pour passer de 16, des pays hautes mal préparés, pour passer de 16 équipes à 24 équipes. Et tout ce qui nous arrive actuellement est lié essentiellement à cette décision. Donc, je pense que, ne serait-ce que pour les nécessités d'adaptation à la mercuriale actuelle, il faudrait que cette question-là soit revue et que, ma foi, tout le monde rentre dans son droit et son droit réel.
Allez, je voulais m'intéresser assez rapidement au basket, notamment le basket féminin. Et on sait que la Coupe du Monde s'est terminée à Tenerife par la victoire des Américaines. Mais on va quand même rappeler avec vous, Amdinsi, le beau parcours des Nigérianes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale. Les Sénégalaises, elles, qui avaient remporté une victoire.
Tout à fait, Nicolas Pinot. Cette 10e édition de la Coupe du Monde de basket a été comme une édition historique marquée par des exploits. D'abord par les États-Unis qui s'offrent une 10e étoile, c'est historique. 10 titres, il fallait le faire et la Dream Team l'a fait avec 3 victoires consécutives. Mais vous l'avez dit également, le Nigeria, champion en titre au niveau africain, qui s'est offert non seulement 3 victoires lors de cette compétition, puisque les Nigérians ont gagné 2 matchs de poule et 1 match de barrage, et c'est pour la première fois de l'histoire qu'une équipe africaine joue les quarts de finale. D'ailleurs, le Nigeria est devenu la 8e nation au niveau mondial. C'est une très belle performance. Et pour parler également du Sénégal, les Sénégalaises qui ont créé l'exploit d'offrir à l'Afrique sa première victoire en match de poule, c'était contre la Lettonie, mais également pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine.
Oui, merci beaucoup, Élisée, merci beaucoup, vous l'entendez, pardon de vous interrompre la fin de cette émission, le générique. On va remercier, il était avec nous depuis Kinshasa, Thierry Kambounji de Top Congo FM. On va remercier Akaza au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir, Amine.
Bonsoir et à la semaine prochaine.
On va remercier également Élisée Ngpatina Bouikon, c'est ton Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Jules Valentin Gou était avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et on va remercier Amdine Si avec nous depuis Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinon et à lundi prochain pour notre numéro de Sportrama.
La mise en onde était assurée par Fred Nerkayemid, Nicolas Pinon à la présentation. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires.